Artichaut.
Artichaut, le moment où on parle d'art. L'émission que vous retrouvez sur le 101.7.
Pourquoi c'est connu ?
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir Malo, bonne année Malo.
Bonne année à toi, bonne année à vous chers auditeurs. Vendredi soir, 20h, on est de retour avec Carotte.
Bah oui, ça nous a manqué, dis donc, c'était long.
Ouais, mais on va avoir encore toute une belle année pour parler d'art et de peintres qui ont marqué l'histoire, leur époque et encore la nôtre aussi par moment.
Oui, bah oui, je nous souhaite plein d'auditeurs vivants et plein de bons peintres morts.
On a pu parler de peintres... Non, on n'a pas encore parlé de peintres vivants. C'est vrai qu'on n'a pas fait ça.
Ben non, parce que
on est sur du 19e siècle.
Hein. Ben, on a parlé, si, on a fait Banksy.
Banksy, tout à
donc,
fait.
Donc voilà, puis on va s'arrêter là, parce que jusqu'à temps qu'on parle de moi ou de vie.
Tout à fait, moi je me disais qu'il y a un moment, le mois de ton anniversaire, on pourrait faire une émission spéciale Carotte, quoi,
ah ouais, ouais, super,
par exemple.
Super, 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 super.
Très bien, bon, merci. En attendant ton anniversaire, Carotte, de qui on parle aujourd'hui ?
Eh bien, on va essayer de parler dans la joie, la gaieté, l'allégresse de Edvard Munch, qui est donc le peintre du désespoir, mais qu'on adore parce qu'il y a aussi derrière tout ça un élan de guérison, d'auto-guérison par la peinture. Donc on va parler de tout ce que j'aime en fait grâce à Munch.
On en reviendra plus tard dans l'émission. On a décidé de se faire un petit moment focus un peu sur toi et ton intérêt pour l'artiste. Là, pour resituer un petit peu les auditeurs, tout à l'heure, quand tu m'en as parlé, tu m'as dit que c'était l'œuvre, donc le cri, avec cette sorte de bonhomme qui a l'air d'être... effrayé au possible,
ben,
très
bouge,
connu.
Ouais, ben, il se bouche les oreilles en même temps qu'il hurle sur un parapet d'un pont et il a l'air d'être, il est au tout premier plan en bas à droite et genre il glisse vers nous dans une espèce de coucher de soleil ou de fin du monde un peu violette et voilà
là,
c'est le cri,
très
le cri de l'homme moderne devant la dureté qui s'annonce quoi, c'est-à-dire nous là maintenant.
Quelle année ce tableau ?
Alors ce tableau, le cri, c'est 1893, mais il faut savoir que avec la Madone qui est aussi un de ses autres tableaux connus universellement. Il y a eu plusieurs versions de peintes. Donc, du coup, il y a au moins de connues 5 versions du cri. Et il a peint la dernière vers 1917. Donc, voilà, ça fait qu'il a beaucoup travaillé sur ce cri. Il a crié pendant de nombreuses et nombreuses années. Et la Madone aussi. Donc, comme il avait des commandes de ces deux tableaux-là les plus connus, il en a fait des copies. Et puis, comme moi, c'était aussi que quand un tableau part, eh ben, c'est une absence, c'est vraiment un trou dans le cœur. Et du coup, tu as envie de la refaire, cette toile.
Est-ce que c'est en partie par rapport à ça qu'il est connu, qu'on va en parler aujourd'hui pour cette raison qu'il a marqué
Il est connu pour au moins deux choses, c'est-à-dire une peinture qui est universelle et qui parle à tous, parce qu'elle parle de grands moments de down, quoi. Et du coup, ben voilà, pour ceux qui ont des vies un peu riches, eh ben les grands moments de down, on les connaît. Donc il a transcrit ça et il l'a transcrit tellement bien que ben voilà, ça franchit tous les continents et tous les peuples. Et donc tout le monde y est ultra sensible. Et aussi parce que les nazis qui ont donc occupé la Norvège avant sa mort avaient déclaré sa peinture comme dégénérée. Et du coup, il apparaît comme le peintre du désespoir, le peintre de la folie furieuse, le peintre aliéné. On va dire que d'un point de vue médical, c'est très difficile de dire si c'est pas les gens fous qui sont les plus sensibles et les plus proches de la vérité. Donc ça, déjà, cette fracture entre la normalité et la folie reste toujours très floue. Et nous qui sommes en France les plus grands consommateurs d'anxiolytiques et donc la population la plus déprimée d'Europe, je pense que c'est très bien de voir comment un gars qui était atteint de ce qu'on appelle la mélancolie, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui une très grave dépression, a réussi à se soigner de son temps. Et en fait, il en est sorti, Munch, de tout ça. Il est sorti de sa dépression.
Et on le remarque chez plusieurs artistes, en fait, ce côté... d'avoir été au plus mal, mais d'avoir puisé dans ce mal-être pour faire naître un art nouveau comme Frida Kahlo, un peu dont tu avais parlé un peu avant les vacances, là, avant qu'on se sépare.
Alors, je ne sais pas, par exemple, si Frida Kahlo, elle avait conscience, quand elle peignait, du grand talent de sa peinture. Par contre, Edouard Munch, dans sa folie et dans sa création, il savait tôt, il a su tôt qu'il était un grand et que ça méritait d'être vu et qu'il s'adressait à un public large et qu'il donnait un nouvel élan, un nouveau souffle. C'est aussi le peintre au moment de la guerre de 14 et tout ça. Donc, si tu vois un peu le moment historique, c'est énormément de désarroi. Et la Norvège dans tout ça est le pays le plus pauvre. Enfin, c'est vraiment un pauvre pays de pêcheurs oubliés de tous. Donc, il naît loin, il naît dans vraiment l'isolement et déjà la précarité. Et il naît aussi dans une famille malade, à la fois de la syphilis et de la tuberculose. Donc, il a la mort qui va s'inscrire très rapidement dans sa vie et qui va le marquer pour, profondément et à jamais.
On reviendra aussi dans cette émission sur l'enfance de l'artiste parce que ça fait plusieurs fois qu'on fait des émissions, qu'on partage la vie des artistes et tu m'as régulièrement dit qu'évidemment le passé influait souvent sur le talent artistique du peintre. Donc c'est toujours cool d'apprendre aussi un petit peu d'où il vient, de quoi il part. Avant tout ça, même si on n'aime pas vraiment ça, comme on en a déjà parlé sur les anciennes émissions, dans quel courant artistique, du coup, on pourrait placer Edouard Munch.
La vie, l'amour et l'amortisme.
L'amortisme.
Il faut inventer. En plus, comme moi, il fait partie de ces peintres qui veulent pas être attachés à un courant parce que pour eux, un courant, ça bloque. C'est comme rentrer dans un parti politique. On n'aime pas. Et puis il y a aussi justement un côté libertaire, un art chez lui ultra moderne. Déjà, une conscience un peu collective et anarchiste. Alors, on avait dit qu'on en parlait à la fin, qu'est-ce qu'il laissait derrière lui. Ouais. Mais donc, un millier de toiles, 4500 et quelques lithos et 145 000 feuillets de journal intime.
Waouh.
Donc, c'est vraiment, il laisse derrière lui un monceau de choses fabuleuses parce que, c'est là son modernisme, c'est que, c'est son anniversaire de ses 15 ou 17 ans, il y a Kodak qui sort son premier, Thomas Edison d'abord qui sort le phonographe, donc la voix enregistrée. Donc, ça, tout de suite, il va vouloir se choper un phonographe et il va être hanté par les voix de fantômes qu'il entend sur les sillons et il voudrait dans sa peinture, remettre le même vibrato, le même tremblement qu'il entend. Donc ça va beaucoup l'émouvoir et l'intéresser. Ainsi que plus tard dans sa vie, le premier appareil photo Kodak. Donc il va faire des photos. Il va aussi avoir la première petite caméra pour faire des films, 16 images secondes. Donc il va faire des films. Et pour finir, il achètera aussi le premier appareil photo avec une pellicule sur bobine.
Wow.
Un gars, il est féru de modernité.
M'a l'air d'être un personnage tout à fait intéressant. On va découvrir son histoire sur l'artichaut ce soir. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, on va vous proposer un petit titre de chanson qui a été choisi par Carotte. Tu veux peut-être en parler un petit peu.
Valo me demande toujours d'illustrer un ancien peintre avec de la musique, donc nécessairement de la musique moderne, de la musique à nous. Donc c'est pas toujours évident d'arriver à retranscrire musicalement.
Pas forcément.
Il faudrait que je tombe juste. Donc ça me demanderait encore un travail pour affiner ça, parce que j'aimerais bien vraiment trouver les musiques qui s'accordent vraiment bien à l'univers intérieur, à la psychologie de mon peintre choisi. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit à la Norvège, et tout de suite, ça m'a fait penser à Björk, qui est folle, qui est punk, qui a un côté anard libertaire et un peu givré aussi, au sens propre comme au sens figuré, et dont j'adore le travail musical. Et où on sent justement son envie de sublimer la musique et d'aller plus loin et d'en faire vraiment une œuvre. Et elle se sert de la nature et des bruits ambiants. Et ça va très bien avec Edouard Munch.
Très bien, parfait. Eh ben, on écoute un petit titre de Björk avant de revenir sur l'histoire de cet intrigant personnage que tu nous as présenté en intro de cette émission.
It's all so quiet. So still, shh, shh, you're all alone, shh, shh, and so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above, simple, is caving in. Wow, wow! You never been so nuts about a guy. You wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot. You blow a fuse, simple, the devil cuts loose, simple, so what's the use? Wow! Of falling in love. It's all so quiet.
Merci pour ce petit titre là.
Oui,
sympa.
Alors j'ai pas dit, mais donc Björk n'est pas norvégienne, elle est islandaise, hein, donc ils viennent pas du même pays. Mais cela dit, voilà un petit côté comédie musicale comme ça, ça va changer un peu l'idée que les gens se font de Munch. Il y a de la joie dans la folie.
Savons-nous vraiment qui nous sommes? Qu'est-ce qui fait partir les bateaux? Qui fait voler les oiseaux? Qui fait sourire les idiots? Laissez les rois où ils sont et posez-vous la question. Hey! Qu'est-ce qui fait brûler nos âmes? Pourquoi on court comme ça après les femmes? Moi, la seule que j'aime vraiment, celle qui connaît mes tourments, celle qui m'a pris pour amant. Vous ne la verrez jamais, et moi je sais qui elle est. La folie, la folie, la folie, la folie. Elle est mon amie, c'est la folie qui vous dit, allez, vas-y. Où tu ris, oui, je lui dois tout, elle m'a tout appris. La folie, elle me tient dans ses mains. Et je suis fou de colère, fou de chagrin, de jalousie, de joie, fou de rien. C'est la plus belle des maîtresses, la seule qui sait les caresses. Que ne sait pas la sagesse. On la sent, on la voit, et on sait quand elle est là. La folie, la folie, la folie, la folie. Elle est notre amie, c'est la folie, la folie. Elle nous prend,
la folie,
elle nous prend,
la folie,
complètement,
la folie.
Mais toujours à l'écoute d'ailleurs d'Artichaut avec Edouard Munch aujourd'hui. Alors Carotte, dis-nous, pourquoi tu l'aimes ce peintre? Pourquoi tu as choisi, entre autres du fait qu'il est dans notre fameux bouquin des tableaux reconnus, pourquoi avoir choisi ce peintre-là? Qu'est-ce que tu admires le plus chez cet artiste?
Ben, parce que c'est une merveille. C'est une merveille. C'est une merveille malade et mal formée et triste. Donc voilà, je m'y retrouve tout à fait. Et c'est surtout aussi sa ténacité, parce qu'en fait, il va vivre longtemps. Donc il naît dans une famille de gens malades. Donc son père est médecin militaire, sa mère est une fille de riches paysans. Mais quand même, c'est un mariage qui ne rapporte pas beaucoup de sous, donc c'est vraiment un milieu très modeste, qui va souvent bouger d'ailleurs. Et c'est quand il a un an que son père amène toute la famille à Christiania, donc c'est le nom ancien pour Oslo, c'est comme ça qu'on appelait Oslo avant, Christiania. Et du coup, c'est dans un fjord où le père a une petite maison de pêcheur pour le week-end et les vacances qu'il va exercer son œil. Et c'est là qu'il va réaliser ses premiers dessins, ses premières toiles. Alors, son père a une famille où il y a la syphilis et sa mère a une lignée où il y a la tuberculose. Et genre, quand il a 6 ans, sa mère va mourir juste après avoir mis au monde son 5e enfant. Et du coup...
Wow, il vient d'une famille nombreuse.
Ouais, il vient d'une famille nombreuse. Donc, sa mère meurt quand il a 6 ans. Du coup, son père devient un peu un papa-maman. Sauf que le père a des problèmes aussi de santé qui lui montent un peu au cerveau. Et donc, de temps en temps, il a des grandes périodes où il est super joyeux et des grandes descentes où il est super déprimé et il devient ultra religieux. La Norvège à ce moment-là, c'est ultra puritain et ultra austère au niveau religieux, donc ça rigole pas. Et puis les paysages sont quand même assez aussi tristes, nostalgiques, monotones, quoi. Il est malade et du coup, ses parents qui sont super religieux le font pas baptiser parce qu'ils ont peur qu'il meure. Donc, tu sais, genre, il est maintenu au chaud dans une petite boîte à chaussures et en fait, il va survivre à tout ça. Mais il va avoir une santé assez fragile tout au long de sa vie. Mais quand même, grâce à la peinture et justement grâce à cette possibilité de pouvoir extérioriser son mal-être, ben voilà, il va durer longtemps. Donc, merci la peinture, merci l'art-thérapie. Donc lui, il dit la peinture, c'est une maladie, c'est une ivresse, c'est une maladie dont je ne veux pas guérir et c'est une ivresse dont je ne veux pas me soigner ni sortir. Il va rechercher à aller bien en s'enivrant. Parce que finalement, peut-être que quand il est à son état normal, ben, il a peut-être mal au bide, il a peut-être mal partout. Et que dès qu'il commence à picoler, à fumer, ben, en fait, son corps s'oublie et donc il a plus mal et sa tête et ses bras peuvent produire des trucs. À 17 ans, il dit à son père « merde » et il ne sera pas ingénieur et il ne sera pas militaire. Et donc, il est motivé pour se lancer dans des études de dessin. Grâce à un copain un peu plus en vue, il va pouvoir avoir une bourse pour intégrer l'école royale de dessin d'Oslo, enfin de Christiania. Il va savoir assez vite que c'est ça qu'il veut faire. Et du coup, bon, ben ça c'est une chance, hein, parce que plus tu commences tôt, plus tu as de chances de mourir bon. Il va pouvoir faire des petites expos. Donc, ce que j'adore aussi chez lui, c'est que lui, de son vivant, il a pu avoir une petite rétrospective avec 100 de ses tableaux, tu vois, quand il avait une trentaine d'années. Et du coup, il va être présent et il va entendre les critiques acerbes, il va entendre les gens se moquer ouvertement de sa peinture, en rire ou carrément s'en effrayer en disant « Mais regardez, ses mains, on dirait pas des mains, on dirait des outils, on dirait des battoirs faits avec des bûches. » Et il s'étonne parce qu'il se dit « Mais comment ça se fait que les gens ils comprennent pas que j'ai passé un temps fou à faire les études et que les mains telles que je les ai peintes, c'est exactement ça que j'ai cherché à réaliser. » Et ça, tu vois, ça bloque. Ça, c'est le côté justement d'essayer des choses dans la peinture moderne et de montrer qu'on peut faire du beau, enfin, on peut faire du puissant avec aussi des choses de la laideur et de la noirceur de la vie et que tout a un sens. Rien n'est laissé au hasard. C'est un grand travailleur. Il fait beaucoup d'esquisses. On a retrouvé d'ailleurs, tu vois, dans ses nombreux papiers qu'il a laissés aussi des petits carnets, des petits journaux intimes de sa jeunesse, mais avec des choses dessinées de son environnement, des couteaux, sa plume avec laquelle il écrivait, des fruits, des fleurs, un petit paysage, une petite silhouette de personnage. Et il fait tout ça à peine ado et c'est d'une propreté, enfin c'est ultra soigné, ultra propre, ultra fin, ultra précis. Donc du coup, ce gars-là, il sait vraiment très bien dessiner, très bien peindre. Donc s'il a choisi de faire mal, par rapport à la vision de certaines personnes, c'est que voilà, faut voir plus loin, faut voir au-delà de ça. Et donc sa grande réussite, c'est le cri qui semble d'une grande simplicité au niveau du trait, presque quelque chose d'assez enfantin et qui a une force et une puissance. Une puissance terrorisante folle, quoi. Parce que c'est clairement la mort, la trouille, enfin.
On dirait presque qu'il est outré même.
Non mais il est plus qu'outré, puis il a ce visage de mort, sans cheveux, on dirait déjà un gars qui s'est échappé d'un asile psychiatrique, il a l'air d'être en pyjama. Oui. Et en plus la scénette derrière où il y a le gars qui regarde vaguement, alors est-ce que quelqu'un se serait jeté du pont ? Je n'ai pas eu d'anecdote par rapport à pourquoi il a peint ce tableau et il l'a fait dans une série qui s'appelle la frise de la vie. Donc c'est un tableau qui fait partie d'une autre série de peintures sur les aléas de la vie, la frise de la vie. Ce qu'on appelle des crises de mélancolie et d'ailleurs sa sœur aussi souffrait de ça. Donc je le rappelle, la mélancolie.
Aujourd'hui on dirait dépression chronique.
Ouais, on dirait une grave dépression qui nécessite une hospitalisation. Du coup il a été soigné avec des bains chauds, longs, mais aussi des électrochocs durs, des régimes fortifiants parce qu'il avait une faible constitution pour le fortifier. Et du coup, ben voilà, il a appris à maîtriser tout ça. Alors, il y a un point d'orgue de son désespoir suite à une belle histoire d'amour, enfin, belle histoire d'amour, un coup de foudre, avec la fameuse Tula, donc, qui est la fille d'un riche négociant en vin. Donc, elle vient des milieux huppés, elle est très libertaire, elle est très portée sur le sexe, et en fait, elle va le faire souffrir, elle va lui faire souffrir le martyr. Et du coup, avec elle, ils ont des grands moments de, ben, d'engueulade conjugale, en même temps qu'ils picolent. Et ça finit par des coups, ça finit par des beuveries violentes où ils s'insultent.
Alors, c'est marrant comme tu parles des artistes à chaque fois, comme si tu avais été présente dans ces moments-là de leur vie. C'est rigolo, ça prouve la passion. Mais on dirait que tu parles des amis que tu connais.
Bah ouais, non, mais après, je vois très bien comment ça se voit, que ça peut dégénérer et tout ça. Et du coup, ben, elle va... le cocufier comme pas possible, lui il va pas accepter, puis alors bon ils vont se séparer, ils vont dire que finalement ok il est d'accord pour une vie un peu libertaire où il lui lâche un peu les rênes, mais finalement ça le fait pas. Après ils ont des jeux érotiques un peu à la con, donc du coup il y a un coup de feu qui va partir, en fait il va se retrouver hospitalisé avec une blessure par balle à la main gauche. Et cette blessure par balle, bon, ben, c'est un peu comme l'oreille de Vincent, on ne sait pas trop qui l'a coupé. Et, mais là, en fait, que clairement, il protège Tula, donc c'est Tula qui lui aurait tiré dessus. Et en fait, c'était à la suite, donc là, on a une description précise de leurs petits secrets conjugaux. Donc, ils faisaient des genres de jeux de rôle, et elle s'était mise comme si elle avait pris... qu'elle avait fait une overdose et qu'elle était morte dans une baignoire nue avec des fleurs et des bougies partout. Lui, quand il est arrivé, il a cru vraiment qu'elle s'était empoisonnée et qu'elle était morte. Du coup, après, elle a fait non, coucou, c'est une blague. Du coup, il s'est mis en rogne, ils se sont énervés et voilà, il y a un coup de feu qui est parti. Donc, c'est un peu pour dire.
Quelle ambiance!
Bah ouais, non, mais du coup, le pauvre gars, il fallait vraiment qu'il se désintoxique de tout ça et qu'il reparte sur une nouvelle voix de la vie, quoi. Et comme en fait il arrête pas de parler du soleil, du miracle de la vie, c'est-à-dire chez lui il y a autant de noirceur qu'il y a de lumière, ses pages sont remplies d'espoir, de lumière du soleil sur sa figure, de, ben voilà, il veut toucher au bonheur, quoi. Il sait que il y a quelque chose à gagner dans tout ça de bon. Et que la mélancolie, la folie, le désespoir ne sont pas une fin en soi, quoi. Et ça, j'aime ce côté-là. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui pensent qu'on est un artiste quand on a un démon à l'intérieur de soi. Et que l'art, en fait, c'est juste le démon qui sort. Mais non, en fait, pas du tout. Enfin, je veux dire, on est aussi complet que n'importe qui. On a les deux revers de la médaille. Il faut beaucoup de... En plus, il faut beaucoup de ténacité, de courage pour continuer à peindre quand tu vends rien, quand les gens crient que tu es un dégénéré.
Oui, c'est vraiment que c'est quelque chose que tu fais par amour, quoi. Enfin, le plaisir de le faire, le besoin de le faire.
C'est une nécessité vitale.
Ouais, une sorte de vocation. Voilà, puis c'est
bah, lui et moi, d'ailleurs, on parle plus d'une mission. C'est une mission sur Terre qui arrive d'en haut, quoi. Et une mission en plus que tu peux pas refuser parce que justement elle arrive d'en haut et qu'elle est censée t'élever. Donc du coup, tu peux pas à la fois t'élever et à la fois te ramasser ou devoir te ramasser pour pouvoir t'élever. Et du coup, il va gagner sa lumière et il va gagner la belle lumière du beau fjord. Et c'est ça aussi que j'aime, c'est qu'il y a une renaissance dans tout ça, il y a un combat.
Avoir fait un petit tour par l'enfance et la petite évolution de cet artiste-là, on va respirer avec un petit coup de musique et on va revenir justement à cette renaissance et à ce nouveau peintre qui a vécu, comme tu le mentionnais tout à l'heure, quand même assez longtemps et qui a survécu à ses démons intérieurs ou pas. Donc voilà, on reste sur du Björk et puis tu avais l'air de dire que le titre « Venus as a Boy » était quelque chose qui correspondait bien. On aurait presque pu le passer au moment où on parlait du couple.
Exactement, tout à fait. Allons écouter Björk. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire là-dessus?
C'est parti. Oh, toujours à l'écoute d'Artichaut sur le 101.7 RDOA. Ce soir, on parle d'Edouard Munch. Si vous venez de nous retrouver, on a évoqué un peu l'enfance, l'époque, pourquoi il est connu, comment on le connaît. Vous pourrez retrouver toute l'intégralité de l'émission sur www.rdoa.fr. Et juste avant la pause musicale, on parlait de ce moment de renaissance.
Oui, alors ce moment de renaissance, il ne va pas arriver tout de suite. Hein, ça va arriver un petit peu plus tard d'abord. Là, on en était à son histoire d'amour fusionnelle et un peu dramatique avec Tula. Donc, ils vont partir voyager parce que tu sais aussi l'importance des voyages dans la vie artistique. Donc, il faut bouger, il faut aller voir les peintres classiques, il faut aller à Paris et tout. Donc, ça, il ne va pas arrêter d'aller à Paris, à Berlin, en Italie. Donc, avec sa folle dingue de chérie, il va aller en Italie, ils vont encore se prendre la tête, finalement elle va vouloir l'épouser, lui il veut pas l'épouser parce qu'elle est plus riche que lui et donc il veut pas dépendre d'elle parce qu'il est fier et orgueilleux. Et finalement, ils vont se séparer suite à cette fameuse blessure au pistolet. Et comme il dit, on peut parfois oublier un amour, mais une blessure dans le corps, c'est plus difficile à oublier. Et lui, par exemple, tu vois, Malo, il n'est pas du tout inquiet de la technologie. Par exemple, il ne se dit pas « Ah, tiens, voilà l'appareil photo, bientôt, il n'y aura plus de peintre. » Lui, il dit clairement que l'appareil photo, c'est juste un outil et que ça pourrait remplacer la peinture si on pouvait amener l'appareil photo au paradis ou en enfer. Et voilà, comme ce n'est pas le cas, la peinture reste l'unique sauvetage des vivants. Va faire Marat dans sa baignoire, assassiné par Charlotte Corday. Tu l'auras sur ton ordinateur, une peinture ultra violente avec une femme ensanglantée nue au premier plan. La peinture est vraiment criante de modernité. On dirait que ça a été fait hier dans un atelier parisien, quoi. C'est très très fort. Il va commencer à se tourner, à se filmer. Donc du coup, il y a des petits films de lui tout nu parce qu'en fait, il veut travailler sur une fresque avec des baigneurs, des hommes nus. Et pour ça, il va se filmer lui. Il va aussi filmer les maîtres nageurs qui sont sur une plage nudiste parce qu'il y a des plages nudistes déjà à cette époque dans les fjords norvégiens. Il va servir du cinéma pour ces images secondes pour voir les muscles, le mouvement et tout ça. Et quand vous voyez ces tableaux, donc voilà, certains vont dire « Ah là là, mais c'est mal fait ». Ben non, c'est super bien fait par rapport au regard de l'artiste. Et moi, j'en démords pas. Alors lui, il se considère à ce moment-là dans son journal comme une frêle esquisse sans timonier emportée vers l'inconnu. Bon, donc il est quand même un petit peu largué. Et puis, il va retourner à Berlin en 1906 et là, il va pouvoir bosser pour une petite collectivité d'artistes puisqu'il va faire les décors pour une pièce de théâtre d'un de ses amis, pièce qui s'appelle « Les Revenants ». Et là, il fait une fresque qui s'appelle « Mère, donne-moi le soleil ». Donc, tu vois, on voit qu'il est animé par des idées positives et chouettes, en fait. Et du coup, c'est vers ces années-là aussi qu'il peint l'autoportrait à la bouteille de vin, que j'adore. Et du coup, ben voilà, autoportrait à la bouteille de vin montre bien la dépression alcoolique qui est liée aussi à la persécution de son art, puisque à chaque fois que ses toiles sont exposées quelque part, à chaque fois, il y a un scandale autour. Et puis, il a quand même quelques acheteurs. Donc c'est pour ça que... Et donc ces acheteurs sont essentiellement allemands. Donc il faut bien voir que malgré la montée du nazisme et tout ça, qu'il va vivre de très près et qu'il a bien sûr la haine du nazisme, mais il considère que quand même l'Allemagne est un peu sa seconde patrie. Donc il va être aussi horrifié par ce qui se passe en Allemagne. Et puis très rapidement, les nazis vont dire que voilà, sa peinture fait partie des peintures des artistes dégénérés, la peinture dégénérée. Et lui, il entend ça, il n'est pas loin. Mais on peut voir par rapport à tout ce qui a été produit. Donc si on parle de plus d'un millier d'œuvres, franchement, il faut aller voir sa peinture, découvrir ou redécouvrir sa peinture. Et le modernisme, une forme d'expressionnisme très moderne, avec des couleurs très denses, qu'il a d'ailleurs essayé de délaver. Donc son boulot, c'est vraiment de dérôder un peu ses peintures. D'ailleurs, il est aussi connu pour faire des expos en extérieur, donc laisser ses peintures sous l'eau, sous la neige, les accrocher à des arbres, les accrocher sur des palissades, les soumettre à des traitements difficiles, ce qu'il appelle les soumettre à des traitements de cheval. Il va vendre très bien ses œuvres et donc il va pouvoir s'acheter assez vite une propriété. Donc toujours là où il a passé sa jeunesse, dans les fjords qui sont au nord de Oslo. Et puis au fur et à mesure qu'il va gagner des sous et qu'il va vivre un peu isolé dans son atelier, il va acheter des terrains autour. Il va acheter des fjords, des autres propriétés, des champs, de l'herbe, pour être sûr d'avoir sa tranquillité et sa solitude. Il va prendre ses distances avec le cubisme et l'art abstrait qui vont naître dans les années 1920, les années folles. Il va se passionner pour le jeune cinéma allemand qu'on connaît, qui sont Murnau, Pabst et Lang, Metropolis. Il va du coup prendre sa caméra et filmer plein de petites scènes de sa ville. Il est très intéressé par l'art du cinéma et justement le côté vivant du cinéma. Et je trouve ça génial que ce type ait autant d'intérêt pour la modernité de son temps. Mais il faut dire que c'est révolutionnaire et en ce sens, il est doublement, triplement révolutionnaire. Il va souffrir de problèmes de cataracte d'abord, donc ça va lui réduire un peu son champ pictural. Sa maison est grande et donc là, par contre, il va se diminuer dans sa maison pour finir par occuper qu'une seule pièce de sa maison où il fait tout, il mange, il dort, il se lave, il peint. Et il va mourir tranquillement en pensant que la mort est le vrai commencement de la vie. Nous ne mourrons pas, c'est le monde qui meurt pour nous. Et c'est comme ça qu'il va finir. Donc, il meurt le 24 janvier 1944, à 81 ans.
C'est bientôt
ça va être bientôt son
anniversaire de sa mort, ouais.
Alors, j'ai noté aussi que d'un point de vue, parce que dans le petit bouquin là sur les arts, on parlait aussi de pourquoi c'est connu et tout ça. Donc, mondialement connu, le cri. Et aussi, une de ses œuvres, alors est-ce que c'est le cri, parce que ce qu'il a de rigolo aussi, c'est que la Madone et le cri vont être volés au musée et puis ils vont être retrouvés par la police. Et du coup, ça arrive quand même assez rarement que des œuvres soient volées, puis retrouvées, puis mises en vente. Et à la vente, ça va battre des records de millions de dollars, donc ça va être une réussite totale pour Edvard Munch. Donc vraiment une vie de calvaire et une lutte contre les démons, gagner la bataille contre ses vices et gagner le soleil et la notoriété pour la vie. Avec ce cri qui maintenant qu'on peut voir comme un cri d'appel à l'amour, à la joie et avoir une bonne année 2024 sous le signe de la paix et de la joie de vivre.
Avec le petit accent marseillais. Let's go.
I watched you in your tragic beauty walk beneath my window. Eyes aimed high but unfocused. You never noticed me. You always wore the same dress, always bore the same expression. It's a loveless world, so what's the point of looking? Let it be. I considered throwing roses, thought I'd maybe wave a flag. Had to try and force some small connection, but there's a snag. It's my confession that I watch you in my tragic isolation, in my disappear. That's the way it's been for years. That's the way it will always be. Always be.
I love you in your tragic beauty by the legendary Pink Dots. Voilà, c'est
très beau titre, ça.
C'est un beau
très
titre. Beau titre. Ben oui, ça, c'est un peu triste, mais ça va bien. Oui, on t'aime, Edouard, dans ta beauté tragique.
T'as la petite anecdote, là ?
Ben oui, la petite anecdote.
C'est pour finir, sur Edouard Munch.
Oui, donc, le cri, une version du cri, une version de la Madone avait été volée le 22 août 2004 au musée d'Oslo. Les deux tableaux avaient été retrouvés par la police. Ils ont été vendus le 2 mai 2012 et une donc des versions du cri a été vendue à 107 millions de dollars, ce qui en a fait à l'époque l'œuvre d'art la plus chère du monde. Voilà pour l'histoire du cri.
Très bien. Est-ce que tu as envie d'une petite parole libre autour de l'art, de Edouard, de la vie, de la radio ou de n'importe quoi d'autre ?
Eh bien, tout ça, c'est merveilleux, c'est génial. J'espère continuer à produire dans tous ces domaines-là encore de nombreuses années. Et oui, bien sûr, l'art guérit tout. Et justement, hier, on parlait du fait que dans le Diwa, on était un peu dans un secteur de misère médicale et où surtout, il ne fallait pas tomber malade. Donc, comme c'est les vœux et qu'on se souhaite toujours d'être en pleine santé et de le rester, et ben, la pratique de l'art permet ça.
Pour
et
la santé mentale, parce qu'on parle toujours de la santé physique.
Bah oui, mais ça va avec. En fait, on voit aussi, bien quand même que les deux sont liés ou finissent par devenir interdépendantes et se lier. Et donc, oui, j'invite à la création artistique, à la création, à l'expression de soi, parce que toute chose dont on arrive à se débarrasser, eh ben, c'est toujours ce qui ne vient pas nous embarrasser. Et du coup, faut y aller, faut foncer.
Alors, une bonne année pour se mettre à l'art. Quiconque a envie d'essayer quoi que ce soit, essayer même, tenter, créer, innover, inventer.
Et c'est propice aussi à la solitude. Donc on parle aussi de beaucoup de gens qui se retrouvent un peu tout seuls chez eux, mais dansez, chantez, faites de la peinture et vous verrez que les journées passent vite et que l'expression personnelle est nécessaire à un bon équilibre de vie et à un bonheur personnel. Se connaître bien soi-même, c'est aussi justement savoir dans quoi on est bon. Et j'entends beaucoup de gens qui disent « Oh, mais moi, je n'ai pas dessiné. Oh, mais moi, si. Oh, mais moi, ça. » Enfin, je trouve qu'il faut arrêter de se sous-estimer. Il faut se prouver à soi-même qu'on peut faire des choses et sortir de sa zone de confort. Et voilà. Et arrêter de se plaindre parce que...
ça ne fera pas avancer les choses plus vite.
Non, ça ne fait pas avancer les choses plus vite. Mais on peut se rendre heureux soi-même. Et il faut le faire, quoi. Allez-y, foncez.
Merci pour ces doux conseils, Carotte. Merci pour ce nouvel épisode d'Artichaut qui marque le début de 2024.
Une émission remplie d'art et d'amour.
Merci de l'avoir suivi.
Merci à tous. On vous embrasse, on vous aime. À tout vite.
À la semaine prochaine à l'écoute du 101.7.
Wasted in love, misunderstood. Baby, it's harder to breathe when you're gone. So I hold them in my hand. Pictures of you, dream of the day you were eating for two. I'm pacing the room and I cover myself in tattoos of